Alors, qu'est-ce qui fait que depuis 30 ans, dans toute l'histoire des sociétés humaines, qui oscillent, on trouve de tout ça hein, dans l'histoire des sociétés humaines, des sociétés communautarisées, juxtaposition de communautés, sociétés hyper collectivistes, où ça, tout le monde mis sous la même autorité, le même machin, tout le monde pense pareil, ça existait aussi. Et la vie société individualiste, c'est plus récent, hein, mais c'est une caractéristique qui est à l'œuvre dans beaucoup de pays, en tout cas capitalistes avancés, dans certains pays, on en voit des traces. Qu'est-ce qui fait que, alors que ce que constituerait un progrès humain, c'est-à-dire une société qui permettrait justement de faire progresser en même temps la liberté individuelle, l'épanouissement personnel, la singularité et la coopération, la solidarité, le vivre ensemble, qui permettrait de faire coexister à la fois des singularités communautaires particulières, des formes d'appartenance sociale singulières, mais sans que ce soit de la juxtaposition et de la rivalité, mais dans un tout harmonieux où ces formes d'appartenance sociale singulières sont en dialogue, en interaction et constituent ensemble une communauté politique dans laquelle ils se reconnaissent. Alors ceci est pensable, est parfaitement pensable, et quelque part ça a été l'idéal de la République, et selon moi l'idéal d'un certain socialisme justement, que de réaliser cela. Pourquoi on s'en écarte très très fortement depuis 30 ans? Alors qu'on avait commencé, je dirais non pas de l'accomplir, mais on avait commencé une bifurcation, il y a maintenant plutôt 60 ou 70 ans, on avait commencé une bifurcation qui n'était pas encore véritablement la société de progrès humain, mais qui était une bifurcation dans ce sens. Je veux parler de la bifurcation qui a été opérée après la guerre, après le grand effondrement qu'avait été celui d'abord de la grande crise de 1929, la grande dépression des années 30, la misère sociale qui s'en était suivie, puis le fascisme, le nazisme, la guerre, enfin bref, l'anéantissement quasiment, une forme d'anéantissement en tout cas en Europe de la civilisation européenne et un effondrement des sociétés européennes, de la démocratie, de l'humanité, de l'économie, du politique, un effondrement complet dont les gens qui en étaient sortis, ou la génération qui en était sortie, celle de mes grands-parents, au lendemain de la guerre, avaient conçu finalement, et ceci par-delà les clivages politiques, avaient conçu au moins une leçon, à savoir qu'il fallait s'éloigner le plus loin possible des causes et du système qui avait conduit à ça. Et il était clair que le système qui avait conduit à ça, c'était le cadre des fameux, des soi-disant, entre guillemets, économies de marché capitalistes, qui avaient commencé de laisser beaucoup trop de pouvoir, justement, aux règles de la concurrence, du marché, et surtout au pouvoir du capital. Et ils en avaient conscience. Et pour preuve, c'est que vous avez au lendemain de la guerre, pas seulement des communistes, ce qui serait assez normal, mais des communistes qui, avec des démocrates chrétiens, des libéraux, des gaullistes, des gens de tous bords, conviennent qu'il faut mettre en place une sécurité sociale, qu'il y a des biens publics qui ne sont pas de l'affaire du privé, mais de l'affaire de la solidarité collective, qu'il faut nationaliser un certain nombre d'activités, que le crédit et la banque, ça ne doit surtout pas être laissé à la liberté des marchés, à savoir que même s'il y a des banques privées, elles sont soumises à une politique monétaire, à une politique de crédit qui est décidée par les pouvoirs politiques, qui avaient décidé que le logement c'était une affaire publique, qui avaient décidé que le prix du pain, le prix de l'essence, le prix du bol de riz, tous ces prix sont des prix administrés, les prix des biens de base. Qui donc avait décidé que les mouvements de capitaux entre les États ne pouvaient certainement pas être libres, que c'était aux États de décider ce qui était autorisé, c'était eux qui devaient donner la permission à des banques d'utiliser tel ou tel type d'instrument financier ou pas. Si vous vouliez déplacer des capitaux, il fallait demander la permission. Si vous n'aviez pas la permission, vous étiez en France, vous vouliez déplacer des capitaux, bah, il fallait les bourrer des valises de billets et puis traverser les Alpes pour aller en Suisse. Si possible en hiver, pour éviter de vous faire repérer. Bon, enfin, il y avait déjà les chasseurs alpins, donc c'était compliqué. Bref, ils avaient façonné un monde, et qui était, je précise, hein, j'en parle beaucoup dans le livre, hein, de cette période et de la transition. c'est pas du tout une nostalgie, hein. Je n'appelle pas du tout à un retour aux 30 glorieuses, comme on disait, pas du tout. Ça a été aussi une période atroce pour plein d'autres choses, que j'ai pas le temps d'évoquer, mais que tout le monde connaît. Donc, je ne dis pas que c'était une période idéale, c'est une période où, comme dans toutes les périodes de l'histoire, et si vous m'en trouvez une d'ailleurs, trouvez-moi une période de l'histoire de l'humanité où, parallèlement à des choses magnifiques, il n'y avait pas en même temps des choses atroces. Donc c'est une période où il y avait aussi des choses atroces. Bon. Mais c'est une période, au moins sur un certain nombre de sujets, on avait une génération qui, au-delà des clivages politiques divers, avait compris qu'ils vivaient précédemment dans des sociétés qui avaient commencé de laisser un pouvoir exorbitant à des marchés, à des bourses, aux gens qui détenaient le capital, et que le résultat, ça avait été l'effondrement du capitalisme, la crise, la misère sociale, donc la colère des peuples, le fascisme, le nazisme, la guerre, etc. Et donc ils avaient tiré cette leçon de bon sens, sans une construction politique et idéologique forcément très élaborée pour certains, mais qu'au moins, il fallait sortir de ça. Sans le savoir, parce qu'il n'avait pas encore lu Jacques Généreux, c'est normal, j'étais pas né. Sans le savoir, ce qu'il faisait en réalité, c'était qu'il cherchait une voie autre, une autre voie, une autre société, entre l'hyper-société et la dissociété. Car après tout, l'inspiration, c'est des modèles libéraux ou conservateurs, d'ailleurs, hein, déjà à cette époque-là, c'était partagé entre les différentes formes de dissociété. C'était l'État minimum, le moins de politique possible, plutôt l'initiative individuelle, voilà, la concurrence, la liberté du commerce, des échanges, la rivalité c'est bien, la compétition c'est efficace, cette culture-là, qui est une culture de dissociété. Il ne s'agit pas vraiment de mettre les gens ensemble, on se méfie de ça, il y a une peur de ça. Alors avec une variante conservatrice, mais qui va dans le sens de la dissociété aussi, qui est oui, mais en même temps, s'il y a trop de délitement, alors les gens commencent à faire n'importe quoi et ça peut être une source de désordre social. Donc pour combattre ce désordre social, il faut quand même que les gens suivent une loi morale, etc. Et bien pour ça, il y a l'Église, il y a la famille, bref, il y a des sous-communautés qui sont là pour assurer cet ordre moral et cet ordre social, mais il n'est pas question de construire une grande société unie, solidaire. Donc ce n'est pas ça le modèle. Leur modèle, c'est celui de la dissociété, mais elle est soit individualiste, soit communautarisée. Bon, et ça, c'est une horreur. Bon. Mais évidemment, l'autre horreur qu'avait nourri le rejet justement de la première phase de la modernité capitaliste et le premier éclatement des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire la première forme de dissociation, qui a été le grand éclatement de la société traditionnelle provoquée par la modernité d'abord, et puis par la révolution industrielle. Et le résultat, c'est que ça a nourri évidemment des tas d'idéologies, des politiques, notamment socialistes, communistes, qui proposaient une autre société. Et le problème, c'est que la manière et la forme concrète qu'ont eu à prendre dans l'histoire ceux qui se présentaient comme une alternative justement à cette dissociété, à cette liberté, c'était des dictatures qui abolissaient la vie personnelle, la singularité, la liberté individuelle. Et donc ce qu'on voyait comme autre modèle à cette dissociété, ben, finalement c'était une hyper-société. C'est une société, ah bien sûr, il y aura moins de rivalité, moins d'inégalité, etc. Mais le résultat, c'est qu'il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de droits de l'homme, et la liberté individuelle, la singularité est écrasée. Et, bon, et en plus, on avait vu jusqu'où pouvait aller ce pôle totalitaire, puisqu'on a même vu se mettre en œuvre le totalitarisme, ou en tout cas ce qui ressemblait à du totalitarisme, à travers le nazisme et à travers la période stalinienne en Union soviétique. Et donc on avait une génération, eh bien, qui était à la fois consciente que le libéralisme, la dissociété, tout ça, finalement, c'était très dangereux, ça aboutissait à l'effondrement de la société, mais que d'un autre côté, l'alternative opposée, c'est-à-dire, bah, alors on va mettre tout le monde ensemble, là, dans une société qui tient bien tout le monde ensemble, eh bien, il y avait là aussi, derrière ça, une horreur totale, épouvantable, contre laquelle, évidemment, ils avaient été vaccinés. Et donc, en fait, ce qu'ils cherchaient, c'était une autre voie. Mais on ne peut pas enfin essayer de trouver un compromis entre le socialisme et le capitalisme, entre le libéralisme et le socialisme. Et ce qu'ils cherchaient, en fait, c'était un compromis. Voilà. Alors, de manière pragmatique, empirique, etc. Et je pense justement que c'était en partie le défaut, c'est que c'était du bricolage politique et non pas une pensée politique. Et en particulier, les gauches, sauf les marxistes qui, eux, ont continué à travailler, Mais la social-démocratie et les partis socialistes, à partir de ce moment-là, ont cessé de réfléchir, ont cessé le travail théorique et le travail idéologique, et au lieu de penser justement cette autre société, eh bien finalement, ils l'ont pratiquée, parce qu'après tout, ça marchait. C'est vrai que les Trente Glorieuses, on peut avoir l'impression que ça y est, c'était fait, ça marchait. Il y avait à la fois le progrès, lent, mais des progrès de la liberté individuelle, le progrès de la prospérité, y compris pour la classe ouvrière. On a l'impression que tout commençait à s'améliorer un peu dans le bon sens, et donc ben, finalement il n'y avait plus qu'à continuer. Et dans ce cadre-là, eh bien les sociaux-démocrates et les socialistes et leurs partis sont devenus des machines à gouverner, des machines à gagner des élections, et plus des machines à penser ce qui était en train de se passer. S'ils avaient pensé ce qui était en train de se passer, ils auraient compris que tout ça n'était que le résultat d'un compromis politique noué dans des circonstances historiques particulières et dans un contexte matériel, technique particulier, et que dès que ce contexte aurait disparu, le compromis volerait en éclats. Et donc si entre-temps ils n'avaient pas pensé, réellement construit ce que pouvait être une vraie alternative à la fois à la vie société et à l'hypersociété, eh bien ils se retrouveraient nus. Et avec aucun modèle à proposer, et c'est justement ce qui s'est passé à partir de la fin des années 70 et des débuts des années 80.